Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Dans la campagne anglaise, ces cheminées qui font partie du paysage depuis la fin des années 60 seront bientôt détruites. La toute dernière centrale à charbon de Grande-Bretagne a définitivement cessé de produire de l'électricité hier. Les habitants de Ratcliffe-on-Soar en sont tout retournés.
La centrale est là depuis si longtemps, elle fait partie de la famille.
Je me demande comment nous avons pu avoir toutes ces centrales électriques et comment nous allons soudain pouvoir nous en passer.
La Grande-Bretagne, totalement dépendante du charbon durant la révolution industrielle, a décidé de se débarrasser d'une énergie fossile trop polluante en misant sur les renouvelables.
Le chemin a été long, mais c'est vraiment positif. Cela montre que c'est possible et que d'autres pays peuvent suivre l'exemple et avoir une économie qui fonctionne sans charbon.
En mai dernier, les pays du G7 ont fait un pas vers la sortie du charbon en programmant la suppression progressive des centrales d'ici à 2035. La France, elle, entend mettre à l'arrêt ses deux derniers sites pour 2027. La centrale électrique de Saint-Avold en Moselle devrait remplacer le charbon par du gaz vert.
Cette solution au biogaz nous permet d'ici à 2027 de réduire totalement le bilan carbone de l'installation tout en garantissant un avenir pérenne à nos salariés.
La Chine et l'Inde, les deux pays les plus peuplés au monde, investissent également dans des énergies alternatives. Mais ils demeurent les premiers producteurs et consommateurs de charbon. Face à une demande en électricité qui ne cesse d'augmenter, le combustible responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre n'a jamais été autant utilisé. Alors les énergies propres pourront-elles le supplanter? Comment sortir de la civilisation du charbon? Le monde y est-il vraiment prêt?
Nos trois invités, Philippe Chalmin, bonsoir, économiste spécialiste des matières premières, vous êtes prof à Dauphine et président de Cyclope, centre d'études spécialisé dans l'analyse des marchés mondiaux des matières premières. Selon vous, la décision de fermer cette dernière centrale à charbon du Royaume-Uni est essentiellement symbolique, car la demande mondiale reste très importante. Le problème du charbon, ajoutez-vous, Philippe Chalmin, c'est que c'est la source d'énergie la moins chère pour faire de l'électricité. Lucille Schmitt, bonsoir, vice-présidente du think tank La Fabrique écologique. Selon vous, c'est compliqué de sortir du charbon, surtout quand on en a en énorme quantité sous son sol, et c'est le cas de la Chine et de l'Inde. Ça pose la question du financement de la transition énergétique pour les pays en phase de développement. Et enfin, Yamina Saeb, bonsoir madame. Bonsoir. Ingénieure et docteur en énergétique, vous êtes experte auprès du GIEC et vous êtes également chercheuse et enseignante à Sciences Po. Selon vous, il y a un consensus pour sortir le monde du charbon, mais l'aide internationale continue de financer les centrales à charbon. C'est totalement incohérent. La solution, c'est la sobriété. On parlera à la fin du débat, évidemment. On démarre avec la date du jour,
oui,
Benjamin.
Ça remonte loin, 1882, année de l'ouverture de la première centrale à charbon du monde par un certain Thomas Edison. Et c'était donc en Grande-Bretagne, en plein cœur de Londres. En 1920, 90% de l'électricité du pays était générée par le charbon. 100 ans plus tard, donc, la Grande-Bretagne se passe définitivement de charbon. Philippe Chalmin, c'est un vrai tournant tout de même.
Ah bah oui, le charbon a été quand même... D'ailleurs, regardez... Nous sommes venus en plateau ce soir, nous sommes allés au charbon. Pendant très longtemps, le charbon a été le symbole du travail. C'était quand même, souvenez-vous du film Billy Elliot, hein, la grande guerre des mineurs de charbon en Grande-Bretagne, menée par Arthur Scargill, que brisa Margaret Thatcher. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en France, on est véritablement... on pousse à la production de charbon. Stakhanov était un mineur de charbon. Donc, le charbon fait partie de notre épopée.
À plus travailler.
Et nous vivons, en Occident aujourd'hui en tout cas, la fin du charbon. Je dis simplement en Occident, et encore dans un Occident limité, symboliquement le Royaume-Uni, la France, on n'en est pas loin. Il y a encore quand même en Europe l'Allemagne et la Pologne. Et puis, comme Elisabeth vient de le dire, la Chine, l'Inde... Nous avons atteint l'année dernière, jamais on n'avait autant consommé de charbon dans le monde, 8,5 milliards de tonnes. Imaginez ce qu'on
va y revenir.
Yamina Saeb, vous qui militez pour la transition écologique, c'est encore une fois un symbole important ce qui vient de se faire là. Vous dites,
sur le plan symbolique, c'est important.
Vous dites voilà qui va marquer l'époque, le temps et le siècle, non ?
Voilà, mais après, sur le plan de la réduction des émissions, c'est rien du tout en fait. Ça ne représente rien du tout parce qu'en fait, la sortie du charbon de la Grande-Bretagne, le tournant a commencé à s'opérer dans les années 90, d'abord quand ils sont passés au gaz.
Comment ils ont fait ?
Alors, parce qu'il y a eu la découverte du gaz au nord, donc ils sont passés du charbon au gaz. Il y a un phénomène important dans le cas de la Grande-Bretagne, c'est que la sortie du charbon, en vérité, ils en sortent parce que le charbon n'est plus compétitif dans le cas de la Grande-Bretagne. Mais ailleurs, on dit que c'est la source la moins chère, mais dans le cas de la Grande-Bretagne, c'est plus compétitif. Pourquoi c'est plus compétitif ? Ce n'est plus compétitif parce que les centrales à charbon britanniques sont de très vieilles centrales et aujourd'hui, les normes environnementales, pour les mettre à jour, ça leur coûterait beaucoup trop cher.
Donc un intérêt économique, vous dites, c'est principalement.
En fait, on en sort pour des raisons de non-compétitivité du charbon dans le cas de la Grande-Bretagne. Et c'est là qu'intervient la politique, enfin les instruments politiques. Comment est-ce qu'on a rendu le charbon non-compétitif en Grande-Bretagne ? On l'a rendu non-compétitif d'abord grâce aux objectifs européens pour 2020, augmenter la part des renouvelables dans le mix de production énergétique de 20%. Et là, la Grande-Bretagne a mis le paquet. Et puis aussi grâce à un autre instrument européen, celui des quotas carbone. Donc en fait, les quotas carbone, en gros, c'est faire en sorte que le pollueur paye. Et ensuite, il y a eu la désindustrialisation qui a fait désindustrialisation en Grande-Bretagne, qui a fait qu'il y a eu une chute de la demande en électricité à un moment donné. Et ce sont tous ces paramètres-là. À cela se rajoute, bien sûr, le fait qu'il y a eu une planification, ça a été annoncé, etc.
Voilà, alors pour la France, Lucille Schmitt, ça vient bientôt, en 2027. Donc ils ouvrent le bal, les Britanniques, et normalement, les Européens vont suivre derrière.
Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'ils ouvrent le bal. Le sujet, ça a été dit. D'abord, je voudrais rappeler que cette centrale ne fonctionnait pas avec du charbon britannique. C'est-à-dire que quand on dit centrale à charbon, on a le sentiment que le charbon continuait à être produit en Grande-Bretagne. Il était importé, c'était par exemple du charbon australien. Donc, ne pensons pas... l'image des mineurs, le symbole, l'histoire, c'est essentiel. Mais aujourd'hui, ça appartient au passé déjà en Grande-Bretagne. Et cette centrale fonctionnait de manière justement extrêmement symbolique. Donc, c'est un symbole qu'elle ferme, mais elle restait un symbole lorsqu'elle continue à être ouverte. Alors, en ce qui concerne la France, donc sur ces deux centrales à charbon qui continuent à fonctionner, ce qu'il faut mesurer, c'est qu'effectivement, on a déjà confirmé, relancé Saint-Avold alors qu'on avait Cordemais qui continuait à fonctionner, dans une situation où la guerre en Ukraine a obligé, en fait, à revoir l'ensemble de la manière dont on considère l'énergie au niveau européen. Le gros truc, ce n'est pas la France, c'est l'Allemagne. Ça a été dit tout à l'heure par Philippe. Le sujet, c'est aujourd'hui l'Allemagne et la Pologne. Et en France, en fait, la question, moi, sur laquelle je voudrais insister, c'est la question de la transition sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien, par exemple, sur Cordemais, qu'il y avait un projet alternatif, donc qui est une centrale française historique et qui est vraiment la centrale sur laquelle se concentre en fait l'attention. Il y avait un projet porté par les salariés et puis par les élus locaux de transformation en un lieu écologique, si je puis dire, enfin de transition énergétique écologique autour de la biomasse. Et aujourd'hui, il y a toute une discussion sur le fait que ça ne serait pas rentable. Et donc, il y a une révolte en fait sociale et une révolte aussi territoriale. Et donc, l'important, me semble-t-il, c'est pas de dire on a fermé. L'important, c'est de donner le sentiment qu'on ne laisse pas de côté ceux qui ont toute leur vie durant vu quelque chose dans leur paysage mental, territorial, etc. Vous savez, lorsque Fessenheim a fermé, la centrale nucléaire de Fessenheim, il y a eu une sorte de révolte dans le territoire sur l'idée que ça avait fermé à contre-temps. Donc apprenons à articuler le social et l'écologique sur ces fermetures qui, sur le plan énergétique, sont encore une fois epsilonesques, et sur le plan social et historique, ne le sont pas.
Alors c'est une urgence mondiale, tout de même, une préoccupation mondiale. Écoutez le patron de l'ONU qui a rappelé l'urgence de mettre un terme au charbon dans le monde, Antonio Guterres.
This requires OECD countries to phase out coal by 2030 and to fully decarbonize power generation systems by 2035. And it means non-OECD countries to phase out coal by 2040. I've been strongly advocating for no new coal projects for all G20 nations.
Yamina Saeb, il y a déjà un consensus mondial Ça donne de l'espoir. Parce que là, vous me dites que c'est juste un symbole, cette fermeture, mais à chaque fois, on a l'impression que les petits pas ne sont pas suffisants. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas rien ce qu'il dit.
Alors, ce n'est pas rien ce qu'il dit, mais après, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire si on ferme toutes les centrales dans les pays en développement en particulier ? Et dans le cas, par exemple, de la Grande-Bretagne, quand il dit les pays de l'OCDE, on doit être leader, parce que d'abord, les émissions cumulées des pays de l'OCDE, c'est ça qui fait le changement climatique. Et la deuxième raison, c'est que c'est ici qu'il y a la capacité financière et la compétence technique pour le faire. Et donc, il dit qu'on doit être leader. Si on prend, par exemple, le cas de la Grande-Bretagne, ils ont pour objectif d'être, toute la production d'électricité, d'être complètement décarbonée en 2030, avant la deadline que lui mentionne de 2035, pour être leader. Mais en même temps, lorsque vous regardez les scénarios qui ont été faits en Grande-Bretagne dans le cadre, l'équivalent de la stratégie nationale bas carbone anglaise, en 2035, la consommation en électricité va augmenter de près de 50% par rapport à l'année de référence. Alors pourquoi ?
Y compris pour les voitures électriques et
tout compris, ça. Justement, pourquoi ? Parce que la transition telle qu'elle est conçue, ce n'est pas vraiment une transition, c'est juste une substitution d'une source d'énergie par une autre.
C'est-à-dire,
donc on ne s'attaque pas aux sources, à la source du problème.
Philippe Chalmin, on s'attaque pas à la source du problème.
Pour moi, à l'heure actuelle, le charbon pèse encore 36% de la production d'électricité dans le monde. Nous sommes toujours, j'adore tous mes amis écolos, etc., nous sommes toujours dans l'ère du pétrole et du charbon. Le charbon, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Le drame, c'est que pour l'instant, l'Inde, la Chine, et l'Asie au sens large, l'Asie, elle pèse 80% de la demande mondiale de charbon. Et c'est là que se situe le problème. Nous, effectivement, nous sommes très en avance. On peut dire qu'on se passe du charbon. On avait gardé... En réalité, EDF voulait fermer les centrales à charbon. C'est ERT qui avait demandé qu'on maintienne les centrales à charbon au cas où il y aurait des problèmes.
Donc c'est la faute de la Chine et l'Inde. On ne peut pas leur dire d'accélérer à la Chine et l'Inde. Ça, ce n'est pas possible. Les instances internationales, elles parlent, mais elles ne sont pas entendues.
La Chine est déjà le premier producteur mondial d'énergie renouvelable. Mais la Chine, elle fait quand même, on va discuter, allez, 5% de croissance par an. Ça veut dire 6 à 7% de croissance de la production, de la demande d'électricité. Donc, l'énergie renouvelable va, mais ils ont aussi du charbon. Et en plus, ils sont le premier importateur mondial de charbon. L'Inde a le même problème. Ils n'ont pas d'hydroélectricité, ils ont peu d'hydroélectricité, ils n'ont que relativement peu de pétrole. Le charbon, ils l'utilisent. Et malheureusement, pour l'instant, et alors en plus, comme si nous ne... il n'y a pas de prix mondial du carbone aujourd'hui. Donc on ne va pas pénaliser le charbon. Si je suis un pays en développement, imaginez un pays africain qui est soumis à des pénuries d'électricité. Il se dit, je vais construire une centrale thermique. L'idéal serait qu'il la fasse au gaz. Le problème, c'est que le gaz est plus cher que la source d'électricité la moins chère aujourd'hui, en dehors des États-Unis. C'est le charbon.
Alors, on va évoquer un pays, puisqu'on a parlé des pays du G7, du G20, ceux qui essayent de faire des efforts, ceux qui ne peuvent pas. Un pays, le Japon, qui n'a pas l'intention d'arrêter le charbon, mais qui a trouvé une espèce d'astuce charbon propre, c'est ça ?
Exactement, pays, le Japon, vous l'avez dit, n'a aucune intention de se passer du charbon pour produire son électricité, mais il espère tout de même réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, et cela grâce au charbon propre. C'est un mélange de charbon et d'ammoniac, qui est en fait un dérivé de l'hydrogène. Alors depuis plusieurs années, des centres de recherche, des industriels et des compagnies d'électricité travaillent sur cette technologie de co-combustion. En fait, c'est faire brûler 80% de charbon et 20% d'ammoniac, l'ammoniac qui n'émet pas de CO2 à la combustion. Et avec cette technologie, le gouvernement japonais table sur une réduction de 20% de ses émissions de CO2. Mais des chercheurs japonais rapportent que ce n'est pas si simple, car d'après leurs calculs à eux, les émissions de CO2 ne seraient réduites en fait que de 4% grâce à cette méthode. Et ils alertent également sur le fait que le Japon ne dispose pas des ressources suffisantes en ammoniac. 20% d'ammoniac, comme je l'ai dit, dans les centrales à charbon, ça représente 20 millions de tonnes par an. Il faudrait donc arriver à se fournir auprès d'autres grands producteurs, la Chine, la Russie, l'Indonésie ou encore les pays du Golfe, tout en prenant en compte que la production d'ammoniac et son acheminement jusqu'au Japon, tout cela a un coût financier et environnemental très important. Lucille Schmitt, est-ce que décarboner le charbon, c'est mission impossible ?
Oui, bien sûr, c'est absolument mission impossible. Mais l'exemple que vous venez de donner est frappant par la difficulté, le conservatisme auquel nous avons affaire. Je crois que la question de la sobriété, la question de notre relation à l'énergie, vous avez commencé à la poser. Et en fait, on voit bien qu'on cherche à inventer des technologies pour ne pas changer. C'est la même chose, d'ailleurs, vous savez, sur les centrales à charbon, parce qu'on dit, au fond, il faut arriver à la neutralité carbone, mais en ayant des mécanismes de séquestration de carbone qui sont en fait totalement, embryonnaires, plutôt que d'imaginer comment est-ce qu'on va utiliser d'autres types d'énergie qui sont le renouvelable, qui sont aussi le nucléaire. Je voudrais quand même insister sur une chose par rapport à tout ce qui vient d'être dit, puisqu'on a parlé des pays développés, et vous avez tout à fait raison, la différence de situation dans laquelle se trouvent les pays développés et les pays en développement, c'est qu'en 2021, au moment où il y a eu la COP26 à Glasgow, justement au Royaume-Uni, il y avait Alok Sharma, qui était le négociateur britannique, qui passait son temps à dire « ce sera réussi si on a traité trois choses ». Charbon, voiture, arbre. Et en fait, au dernier moment, ce qui était très intéressant, c'est que la Chine et l'Inde, qui sont traditionnellement opposées en termes géopolitiques, se sont mis d'accord pour amoindrir l'ambition sur le charbon, parce que ce sont effectivement deux grandes puissances, mais aussi parce qu'elles l'ont dans leur sol, je le répète, et parce que ce sont d'abord les questions de pétrole et de gaz qui doivent être traitées par les pays développés que nous sommes, parce qu'on ne peut pas culpabiliser en permanence ceux qui ont des ressources.
Alors, justement, Yamina Saeb, qu'est-ce que vous répondez à Philippe Chalmin quand il vous dit la Chine et l'Inde et d'autres pays, ils font avec ce qu'ils ont, ils ont un sol riche en charbon, ça leur coûte pas cher. Est-ce qu'on interdit aux banques, c'est impossible, mais en théorie, vous allez me dire pourquoi pas, de financer des pays comme ceux-là qui ont de toute façon les ressources financières et qui peuvent faire ce qu'ils veulent ?
Alors, je reviens sur le Japon. Le Japon, en plus d'être un pays qui a beaucoup pollué, qui a comme héritage des pollutions et qui fonctionne au charbon, et décarboner le charbon, c'est un mensonge en fait. Le Japon, c'est le pays du G7 qui investit le plus dans les centrales à charbon dans l'Asie du Sud-Est. Donc en fait, l'aide au développement, ce n'est pas qu'on va interdire aux banques, l'aide au développement, aujourd'hui, dans le secteur de l'énergie, elle va principalement pour investir dans les centrales à charbon. Et c'est ça qui
donc
va pas faire le problème.
Donc vous coupez les flux financiers
dans ces cas-là. Mais pourquoi est-ce qu'on va... Alors qu'on pourrait, par exemple, si on prend l'exemple de l'Afrique. L'Afrique, c'est la région du monde, c'est l'une des régions du monde les plus ensoleillées. On pourrait passer, au lieu d'investir dans le charbon...
Installer des panneaux solaires,
c'est ça ? Investir dans la production. Il faudrait faire de la production locale en
Philippe
solaire.
Philippe Chalmin.
Attendez, je finis.
Je voulais finir.
Je finis juste un point.
L'Inde et la Chine, ils vont pas faire ça. Vous n'allez pas leur dire de mettre des panneaux solaires.
Non. Ils sont en train de mettre. La Chine est leader sur l'installation. La Chine est leader sur l'installation des panneaux solaires.
Donc ils sont en bonne voie, eux.
La Chine, elle a en même temps, elle essaye de sortir des énergies fossiles. En même temps, elle a un souci de répondre à la demande énergétique du pays, à laquelle elle répond avec la source d'énergie qu'elle a localement. Juste un dernier point s'agissant des banques. Par exemple, il me semble que c'était en 2021, la Banque européenne d'investissement, c'était à l'époque Bruno Le Maire qui avait été leader sur ce sujet-là, a décidé de ne plus investir dans les énergies fossiles. Mais, il y avait un mais, parce que dans cette phrase-là, c'était écrit de ne plus investir en Europe, mais pour tous les investissements en dehors de l'Europe, donc dans les pays en développement, on continue, nous, à investir dans les énergies fossiles. Alors, c'est là il y a problème.
Attendez, moi, je me mets simplement à la place d'un pays en développement, mettons un pays africain qui a des problèmes d'alimentation électrique dans sa capitale, vous imaginez tout à fait ce que ça peut être, coupure d'électricité, etc. Le gouvernement décide de mettre en place une centrale thermique. Parce que c'est très bien le renouvelable, mais le renouvelable à court terme ne peut pas satisfaire aux besoins de mégalopoles de plusieurs millions d'habitants. Dans la mesure où pour l'instant, souhaitons qu'à la COP29 à Bakou, on soit capable de sortir au petit matin blême à Bakou en disant « ça y est, on a un prix mondial pour le carbone ». Pour l'instant, on ne l'a pas. Eh bien, l'instant, la manière la plus économique de produire de l'électricité, malheureusement, c'est le charbon et ce n'est pas le gaz naturel. Ce serait déjà un progrès que ce soit le gaz naturel, mais le charbon aujourd'hui...
Je voudrais juste rappeler que le gaz naturel, c'est des énergies fossiles aussi.
Oui, c'est fossile, mais c'est quatre fois moins polluant que le charbon. Donc, entre deux mots, je choisis le moindre.
Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, entre les pays du Sud, il y a un débat extrêmement vif selon les ressources dont ils sont dotés. Quand vous avez du pétrole, du gaz... ou du charbon, vous n'êtes pas sur la même position par rapport à ce qui va se passer, par exemple, dans les COP en termes de négociations climatiques. Et pourquoi vous n'êtes pas sur la même position? Parce que, effectivement, la question du financement est centrale. Et je trouve ça très intéressant qu'on ait commencé à aborder la question des banques. Il y a aussi la question des financements publics, il y a la question de l'aide et comment est-ce qu'elle est distribuée. On ne peut pas aboutir à des positions aujourd'hui homogènes des pays du Sud vis-à-vis du Nord en fonction, parce que les ressources sont différentes. Il y a eu un grand sommet en Afrique l'année dernière sur la question justement climatique. On a vu que les pays qui avaient des hydrocarbures n'étaient pas d'accord avec ceux qui faisaient de l'énergie solaire. Le Kenya n'était pas d'accord, par exemple, avec le Sénégal. Donc on est dans une situation où il appartient aux pays du Nord d'être assez exemplaires sur ces enjeux-là, en finançant, mais en finançant de façon à sortir du charbon réellement, c'est-à-dire pas en racontant qu'on va sortir du charbon. Le sujet, c'est les mots et les actes. Et au fond, là-dessus, moi, je voudrais terminer quand même en disant que les ONG, la société civile, ont un rôle crucial à jouer parce qu'il ne faut pas compter ni sur les gouvernements, ni sur les acteurs économiques puissants pour réellement donner un sens à cette question de la sobriété et de la transition.
C'est eux qui signent les accords.
Ils signent les accords, mais s'il y a une pression sociale...
On ne va pas les mettre de côté.
Non, mais on ne va pas les mettre de côté. Mais s'il y a une pression sociale... Vous savez, quand on va faire une COP à Bakou, le sujet, c'est que la COP est très ouverte parce que c'est un grand pays producteur d'hydrocarbures et donc ça peut aller du côté de zéro discipline ou de la discipline parce que justement, on est dans un pays producteur d'hydrocarbures. Ce que je veux dire, c'est que la diplomatie aujourd'hui doit être une diplomatie ouverte dans laquelle la société joue son rôle en termes de contre-expertise.
Alors, on va au charbon, on descend à la mine, on va dans l'archive, on est en 1945, on a un canari éventuellement. Regardez, c'est vraiment un changement d'époque.
Du charbon, du charbon. La France se chauffera-t-elle? Les hommes du pays noir ne sont pas avares. Le pays leur a demandé un effort gigantesque, ils l'ont fait. Pourtant, leur métier n'est pas doux. Pourtant, leur situation au lendemain d'une guerre de 6 ans n'est pas enviable. Et dans ces circonstances difficiles, le charbon sort. Le mineur est l'homme qui, en France, a fait à la cause générale le plus de sacrifices. Il a accepté de travailler le dimanche. Il a sacrifié ses congés. Il a travaillé plus vite et plus fort. La production journalière, qui était de 614 kilos par homme et par jour en 1944, est montée en juillet à 850 kilos. Et cette semaine, dans certains puits, à 1300 kilos.
Regarde.
Vous avez 30 secondes, Philippe Chalmin, Yamina Saeb. Qu'est-ce que vous attendez de la COP, justement, en Azerbaïdjan, sur la question du charbon?
Moi, la COP, j'attends rien du tout.
Ah bon, bon, ben comme ça,
vous
allez,
vous n'attendez jamais circuler. Rien de la COP. Bon, d'accord, et vous, Philippe Chalmin?
Pas grand-chose non plus, je ne me fais aucune illusion.
Non, mais la sortie du charbon, quelle échéance?
Si, la sortie du charbon, chez nous, c'est évident. Et l'Allemagne et la Pologne vont peu à peu réduire. À l'horizon de 10 ans, il n'y aura plus de charbon.
Le taxe davantage, c'est ça, Lucille Schmitt?
Mais dans le reste du monde, non.
Non, il faut à tout prix qu'il y ait une relation Nord-Sud et notamment inclure la Chine, faire en sorte aussi de sortir la Chine des pays du Sud, parce que si vous voulez, aujourd'hui, elle n'a pas les disciplines qui devraient s'imposer alors qu'elle est la deuxième économie mondiale. Donc il faut arrêter aussi de jouer avec des catégories qui sont dépassées.
Et vous allez tous à la COP pour réclamer ça à la Chine, s'il vous plaît.
Juste un petit chiffre. Oui. Sur 2024, augmentation de 30% des importations de charbon de la Chine en provenance d'Indonésie en particulier.
Voilà. Merci, c'est le mot de la fin de ce débat absolument passionnant et merci d'y avoir contribué à tous les trois.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.